On appelle cela la santé environnementale. Il s'agit de tous les facteurs extérieurs qui peuvent influencer l'état de santé des populations, des pesticides au réchauffement climatique, en passant par les rayons ultraviolets ou les métaux lourds. Ces polluants sont omniprésents autour de nous. Quelle est l'influence de ces contaminants sur la santé à l'échelle d'une vie ou de quelques générations? C'est le sujet de notre dossier dans un instant avec mes invités qui sont spécialistes en épidémiologie, en toxicologie. Et bien sûr, vous nous rejoignez avec vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
La pêche électrique revient à la une de la science aujourd'hui avec le Parlement européen qui doit se prononcer demain.
Oui Mathieu, une pêche jugée barbare et destructrice, pratiquée pour l'instant contre l'avis scientifique de la Commission européenne. Demain, elle pourrait se généraliser. On en discute avec Claire Nouvian de l'association Bloom qui se bat pour la faire interdire.
Et c'est Fanny Bouillon qui est aux commandes de cette tête au carré préparée par Lucie Sarfati avec Thomas Kalevitch.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Santé environnementale. Dans quelques instants, donc, dans notre dossier avec mes invités que je salue, l'épidémiologiste Rémi Slama et le médecin toxicologue Robert Barouki. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Rémi Slama, vous publiez aux éditions Quai Le mal du dehors, l'influence de l'environnement sur la santé. C'est un titre à rendre totalement paranoïaque. Notre environnement extérieur est aussi hostile que cela?
Je crois au contraire que c'est un titre très optimiste parce que si le mal est au dehors, ça veut dire que on va peut-être pouvoir l'influencer avant qu'il cause des dégâts dans notre organisme et sur notre santé.
Ah oui,
et
vous
donc
êtes,
s'en protéger.
Vous êtes très optimiste quand même alors. Ouais. Ouais. Robert Barouki, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de savoir quel contaminant est responsable de telle maladie? On peut vraiment faire comme ça des liens aussi directs?
On peut établir des présomptions. Souvent, on n'est pas absolument sûr de quel contaminant. Il y a quelques cas où c'est relativement clair. Bon, on a l'amiante par exemple, on a des données assez claires, et d'autres cas où on est plutôt dans la présomption. Mais cela dit, être dans la présomption, ça veut pas dire être dans l'inaction.
Et on va en parler bien sûr avec vous, c'est le thème de notre sujet dans un instant, avec les messages et les questions bien sûr des auditeurs qui nous rejoignent.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Ravages et mensonges de la pêche électrique aujourd'hui à la une de la science, alors que se prépare demain au Parlement européen un vote d'importance pour généraliser ou interdire cette pêche. L'association Bloom a dévoilé la semaine dernière que les dérogations qui permettent à quelques bateaux de pratiquer cette pêche ont été données contre l'avis des experts du comité scientifique de la Commission européenne. Axel, on discute des enjeux de ce vote avec nos invités.
Oui Mathieu, on est en duplex depuis le Parlement européen de Strasbourg avec Claire Nouvian. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice de l'association Bloom de défense des océans. Et dans ce studio, on est avec Hervé Kempf, notre partenaire pour le magazine Reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Axel.
Pour commencer, Claire Nouvian, vous êtes au cœur de l'action avant le vote de demain. Rappelez-nous d'abord un petit peu en quelques mots ce qu'est la pêche électrique.
Eh bien, c'est du chalutage de fond, donc des grands filets qui sont tractés et qui ont un fort impact sur le fond marin, qui désormais sont aussi équipés en électrodes qui envoient un courant électrique qui permet de faire sauter des poissons qui sont en fait ils subissent une contraction musculaire tellement forte qu'ils sortent du sédiment comme du pop-corn et du coup le filet n'a plus qu'à passer pour récolter la pêche miraculeuse.
Et pour l'instant dans le monde qui pratique cette pêche?
Alors ce sont les Néerlandais. C'est un problème qui est très circonscrit, très identifié. C'est un tout petit pays qui avait une flotte de pêche de chaluts à perche, c'est-à-dire des chaluts de fond, mais qui en plus avaient des chaînes qui sortaient les poissons plats du sédiment. Et cette flotte de chaluts à perche a évidemment un matériel très lourd qui consomme énormément de gasoil. Donc ils étaient sur la route de la faillite et ils ont trouvé l'astuce pour éviter la faillite. En fait, c'est d'utiliser du courant électrique. Donc eux, ils sont très très contents.
Alors, depuis 2006, ces Néerlandais ont l'autorisation, en tout cas la dérogation de pratiquer cette pêche. Et vous dévoilez vendredi qu'au moment de cette autorisation, de cette dérogation, les choses ont été faites de manière un peu bizarre. Racontez-nous.
Oui, alors on a un règlement, en fait, depuis 1998, qui dit très clairement qu'en Europe, il est interdit de capturer des poissons en utilisant du courant électrique ou des explosifs ou du poison, par exemple. Donc on a un règlement très clair. Et en 2006... est apparue cette possibilité d'utiliser le courant électrique qui était incompréhensible et qui dit en plus dans le règlement qu'il en découle que cette décision a été faite et prise à la lumière des avis scientifiques. Donc ça nous a mis la puce à l'oreille, on a cherché quand même comment s'exprimaient les chercheurs pour conseiller d'utiliser de l'électrocution. Et en fait, on a trouvé ce document qui était évidemment soigneusement caché et qui dit exactement le contraire de ce que clame la Commission européenne et le règlement qui s'en est suivi. L'avis scientifique dit aucune dérogation ne doit être donnée tant qu'on n'a pas résolu un certain nombre de problèmes qui sont graves.
Avec M-fin.
C'est-à-dire que quand Carmenu Vella, le commissaire européen aux affaires maritimes et à la pêche, dit, je le cite, « La Commission fait des propositions sur la base des avis scientifiques indépendants du Conseil international pour l'exploration de la mer et du Comité scientifique, technique et économique de la pêche », excusez-moi d'être long, quand il dit que ces deux conseils ont mis en évidence un nombre considérable d'avantages biologiques et écologiques de la pêche au chalut électrique, vous dites que c'est un mensonge, en fait.
C'est un mensonge, ça, pur et dur, ouais. Alors... Et d'ailleurs, la Commission européenne a menti à plusieurs reprises, parce que la semaine passée, au Parlement à Bruxelles, on a organisé un événement politique avec plusieurs groupes politiques, et la Commission européenne a été fortement attaquée, notamment par Yannick Jadot, et elle s'est défendue en mentant de nouveau, mais là en commettant une erreur monumentale, en disant que les dérogations étaient en cours depuis 1998, alors qu'en plus c'est 2006, donc là il y a en plus un problème d'incompétence.
Ouais. Quels sont les arguments, Claire Nouvian, de la Commission pour défendre finalement cette pêche électrique? Parce qu'on se demande bien quels avantages ils peuvent y trouver.
Je vais vous dire, je pense qu'on est dans un moment de grande gêne politique, parce que tout ça s'est fait entre amis, sans que personne mette son nez là-dedans, parce que nous, on était, vous vous souvenez, occupés à se battre contre la pêche en eau profonde, et on peut pas courir après tous les lièvres, donc ça s'est fait sans qu'on mette notre nez là-dedans, et maintenant qu'on est en train de révéler le poteau rose, je pense que c'est, il n'y a pas d'argument. Donc ils sont dans un moment de vide politique qui est très compliqué, parce que ça génère une espèce de déflagration dans le milieu justement des institutions quand on pointe du doigt une faute. C'est une faute. Mais donc il faudra qu'elle s'en explique devant les parlementaires et les citoyens européens.
En novembre, quand même, la commission spécialisée du Parlement européen était d'accord pour poursuivre cette pêche électrique. Comment vous expliquez sa position? Est-ce qu'elle va évoluer?
Alors, il y a un problème générique global, qui est que la commission de la pêche du Parlement européen, qui examine les textes qui arrivent, les propositions législatives qui arrivent de la Commission européenne, avant qu'ils passent en vote en plénière, c'est une commission de 27 députés qui, en majorité, sont très proches des lobbies industriels, qui les ciblent de façon évidemment prioritaire pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est un problème général qu'on a sur tous les règlements, et qui parle de corruption morale très présente et très pressante, et totalement inacceptable. Donc que les résultats des votes en commission pêche du Parlement soient mauvais, c'est totalement habituel. Mais en l'occurrence, en plus, on aurait, je pense, pu obtenir des votes beaucoup plus favorables à notre position si on était rentré, nous, plus tôt en campagne. Or, nous, on était encore en train de récolter une masse fondamentale de science pour être sûr de pouvoir vraiment justifier une position forte. Maintenant, on est en effet en béton armé, mais on est arrivé nous-mêmes tard dans le processus. Il aurait fallu faire du lobbying, on va dire, depuis au moins un an pour obtenir une position favorable de la commission pêche du Parlement.
Si cette pêche est si efficace que ça, est-ce que les pêcheurs traditionnels ne pourraient pas crier à la concurrence déloyale, par exemple ?
Alors, ils peuvent dire ça. Ça fait partie de tous les problèmes qu'ils peuvent soulever, et d'ailleurs au titre desquels il serait totalement légitime d'attaquer la décision de 2006, qui a été reconduite plusieurs fois par la Commission européenne. Hein, c'est pas un one shot, comme on dit. Hein, c'est pas arrivé une seule fois par hasard. Non, c'est vraiment, il y a une volonté de donner raison et de favoriser une méthode de pêche, un groupe d'intérêts sectoriels très identifié, très petit, contre l'intérêt général. Donc oui, les pêcheurs artisans, de toute façon, on les voit, vous savez, peu. Enfin, c'est tout le problème de la pêche. C'est que, d'ailleurs, pas que de la pêche, de l'agriculture. Les petits producteurs, les petits pêcheurs ne sont pas représentés politiquement. Donc ils ont un vrai problème d'influence. On ne les entend pas, on ne les voit pas, en tout cas pas du tout suffisamment par rapport à la représentation des intérêts industriels. Ils n'ont pas du tout le même réseau politique, ils n'ont pas le même portage. Donc on est dans ce problème, on voit bien que les pêcheurs artisans, là, sur ce dossier, sont très mobilisés. Mais ils sont absolument seuls. C'est-à-dire que jusqu'à ce que nous, on arrive pour les défendre, pour les aider avec de la stratégie politique, je peux vous dire qu'ils ne sont pas du tout défendus par leur comité national. Et c'est la même chose partout en Europe.
Alors vous le rappelez...
Pardon.
Non, allez-y, finissez. Vous vous rappelez quelque chose?
Oui, en fait, les comités nationaux qui sont supposés. Donc, ces comités sont des structure de représentation des intérêts des pêcheurs. Normalement, il devrait représenter tous les intérêts de tous les pêcheurs, du plus petit au plus grand pêcheur. Mais on voit d'année année après année que dans tous les pays européens, ce sont les intérêts industriels qui sont pris en compte et qui sont défendus par ces instances, qui sont devenus, et leur illégitimité est en train d'être percé vraiment à la lumière, la grande lumière du jour. Quoi. Ça devient un scandale, je pense, qui ne tient plus.
Il ne reste plus beaucoup de temps et on vous pose une dernière question. Vous êtes optimiste pour le vote de demain? Vous allez réussir à faire interdire la pêche électrique?
Je pense que le vote de demain, en fait, aujourd'hui, on est en train de se battre. On va se battre sur chaque vote, chaque voix, ça c'est sûr. On est vraiment mobilisés. On a 11 pêcheurs qui sont venus de partout, qui sont en panique parce qu'ils voient bien la faillite arriver dans leur propre quartier maritime. À quel point les économies régionales sont en train d'être dévastées par ces intérêts lobby, industriels, etc. Maintenant, le vote de demain va être un révélateur des enjeux cachés et des positions cachées des uns et des autres. On va voir qui a soutenu, en fait, des intérêts industriels qui restaient un peu discrets jusqu'à ce qu'on arrive et qu'on devienne en fait efficace dans notre lobbying. Et là, on voit les masques qui sont en train de tomber. Et c'est pas joli, joli.
Merci beaucoup Claire Nouvian. Courage à vous parce que vous travaillez vraiment beaucoup et les nuits sont extrêmement courtes en ce moment. Donc pour ce vote demain à Strasbourg, à l'occasion donc de ce vote sur la pêche électrique. Merci beaucoup à vous. Hervé Kem fait un coup d'œil sur reporter.net. Qu'est-ce qu'on peut y voir cette semaine?
Eh bien à la une ce lundi, est-ce que le développement du trafic aérien peut se faire sans augmenter les émissions de gaz à effet de serre? Une question qui est en train de se poser quand on parle d'aéroport. Et la réponse est là, c'est non, il n'est pas possible de faire Make the Planet Great Again en même temps que Make the Plane Big Again
fait yeah. Le gros avion. Hervé Kem en anglais, on adore.
Il y a un reportage au Nord Cameroun, mais là je ne sais pas parler le Camerounais ou le Nigérian. C'est sur des migrants qui ont fui Boko Haram, dont on parlait dans le flash de 14h. Eh bien, ils reboisent pour éviter la déforestation aux alentours. Et puis demain, mardi, un reportage sur les pêcheurs dont nous parlait Clara Nouvian. Les petits pêcheurs à Dunkerque ne sont pas du tout d'accord, comme elle l'a très bien expliqué.
Merci beaucoup, reporter.net. Et Axel, on se retrouve demain pour la une.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, les océans capables de déplacer des rochers de 600 tonnes. Dans une étude publiée dans la revue Earth Science, des géologues ont observé le dépôt de plusieurs rochers, dont un de 620 tonnes sur la côte du nord-ouest de l'Irlande après une grosse tempête. Phénomène déjà observé à la suite de tsunamis ou d'événements tectoniques rares. Il pourrait se produire de plus en plus souvent, selon les chercheurs du Williams College dans le Massachusetts. Intensifié par le réchauffement climatique, les tempêtes capables de tels exploits risquent de se produire plus fréquemment. Il est donc important de mieux comprendre leur dynamique via ces dépôts. Les spécialistes seront en mesure de préciser les processus côtiers et certains modèles de tsunami. Les capacités de régénération des lamproies. Scientific Reports publie une étude sur les processus impliqués dans la cicatrisation de la moelle épinière chez ces poissons. Des chercheurs de l'Institut Feinstein aux États-Unis ont réussi à identifier les différents gènes mis en jeu. Ils constatent une modification de l'expression de certains d'entre eux dans la moelle épinière et dans le cerveau de l'animal. Nombre de ces gènes sont également présents chez certains mammifères. Des résultats suggèrent qu'ils pourraient également être utilisés pour la réparation, voire le développement de nouvelles thérapies chez les humains. Et puis plongez au cœur de la nébuleuse d'Orion dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur le Facebook de la Tête au Carré. Des images prises par les télescopes Hubble et Spitzer vous font voyager au centre de l'une des plus brillantes nébuleuses observables depuis la Terre, distante d'environ 1400 années-lumière et pouvant être aperçue aux jumelles. Ce nuage avait été découvert vers 1610. Pour réaliser la vidéo, la NASA et l'ESA ont combiné des images prises dans le visible et dans l'infrarouge. Et on parle de santé environnementale dans un instant.
I barely ever see you.
S'appelle The National avec The Day I Die.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Voilà, santé environnementale dans le dossier cet après-midi pour comprendre ensemble l'influence des contaminants extérieurs sur la santé des populations. Rémi Slama, vous êtes avec nous, épidémiologiste environnemental à l'INSERM et responsable de l'équipe d'épidémiologie environnementale de l'Institut pour l'avancée des biosciences. C'est à l'Université Grenoble-Alpes et donc ce livre que vous avez publié, Le mal du dehors, aux éditions Quae. Et puis Robert Barouki, vous êtes médecin toxicologue, professeur de biochimie INSERM à l'Université Paris-Descartes et donc directeur d'une unité INSERM. Les auditeurs nous rejoignent avec les questions franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. On va faire un petit point d'histoire pour d'abord comprendre à quel moment a émergé cette jeune science qui malgré tout puise ses racines il y a très très longtemps. Rémi Slama, vous le rappelez dans votre ouvrage, parce que finalement les médecins de l'Antiquité avaient déjà compris les liens entre l'environnement extérieur et la santé des hommes.
Oui, en tout cas Hippocrate, donc il y a plus de deux millénaires, disait déjà que celui qui veut comprendre la santé d'une population en arrivant dans une ville doit étudier le climat, les vents, les sols, la qualité des eaux. Donc c'est visionnaire. Alors ce serait peut-être faire un contresens que de l'interpréter en lien avec le changement climatique, mais en tout cas il avait vraiment conscience de l'influence de ces facteurs présents dans nos milieux sur la santé humaine.
Il est agaçant Hippocrate parce qu'il avait tout compris avant tout le monde, hein, Robert Barouki. Hein,
et les historiens sont un peu agaçants parce qu'à chaque fois que je fais un topo, j'essaie de montrer.
C'est vrai, on cite toujours Hippocrate.
Voilà, combien c'est, il y a des choses nouvelles qui apparaissent dans le domaine, dans une nouvelle science, etc. Ils me disent oui, mais les mélanges, on sait ça depuis très longtemps, et puis l'Antiquité, et puis cela. Donc ça coupe un peu les effets. Donc voilà.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'est vrai que c'est pas si récent que ça.
Ouais. Sauf que cette science, au fond, est plutôt jeune, Rémi Slama, quand même. La santé environnementale, c'est une discipline émergente, on pourrait presque dire, non ?
Oui, c'est même pas une discipline, c'est un mélange de disciplines. Donc ouais, peut-être que les toxicologues vont la faire remonter à Paracelse, celui qui a dit le fameux que la dose fait le poison. Ça fait plusieurs siècles. Les épidémiologistes aiment bien la faire remonter à John Snow, qui est connu d'abord, c'était un anesthésiste, c'est le premier à avoir fait une anesthésie sur la reine Victoria pour la naissance d'un de ses enfants. Mm-hmm. Mais surtout, lors d'un épisode d'une épidémie de choléra à Londres, à une époque où les médecins pensaient que le choléra était transmis par des miasmes qui se propageaient dans l'air, il a affirmé que non, ça venait de l'eau. Et par diverses expériences et observations, notamment en enlevant la pompe la manche d'une pompe dans une rue de Londres et en stoppant des cas qui étaient centrés autour de cette pompe, et aussi en faisant une analyse statistique de la répartition des cas de choléra, il a montré que la transmission de la maladie se faisait par l'eau à une époque où on n'avait pas encore compris et identifié la cause précise, proche de la maladie, c'est-à-dire le Vibrio cholera, qui a été découvert par un Italien quelques années plus tard. Et ce qui illustre bien d'ailleurs qu'on peut prévenir les problèmes sanitaires sans forcément avoir compris tous les mécanismes sous-jacents qui causent la maladie.
Robert Barouki, du côté de votre discipline, la toxicologie, est-ce qu'il y a eu un événement fondateur justement qui a vraiment marqué en tout cas cette science ?
La plupart des gens, comme l'a dit Rémi, font remonter ça à Paracels, hein, ça fait quand même plusieurs siècles. Et
non, mais là, ensuite, dans notre époque contemporaine.
Dans notre époque contemporaine, nous, quand on je veux dire, il y a eu quelques livres qui ont marqué, hein, je veux dire, le livre de Carson dans les années
Rachel
60.
Carson.
Silent Spring, donc a vraiment
le
marqué.
Le printemps silencieux. Exactement. Tout le monde veut parler anglais aujourd'hui dans cette émission.
Bon, mais vous traduisez très bien. Donc, ça a quand même été un événement. Il y a eu quelques conférences, quand on parle de perturbateurs endocriniens, la conférence de Wingspread. Il y a eu ces jalons-là qui ont vraiment marqué. Et puis, pour beaucoup d'entre nous, la notion de perturbateur endocrinien est quelque chose d'intéressant, de nouveau, et qui a quand même marqué un peu les dernières années, les dernières décennies de la toxicologie.
Tiens, il y a une question qui arrive justement de Jean-Paul sur le site de l'émission. Est-ce qu'on peut étudier les conséquences des perturbateurs endocriniens sur les générations futures? Alors, on aurait pu évidemment développer cette question un petit peu plus tard, mais puisqu'elle arrive, on peut y répondre tout de suite. Robert Baruchi, par exemple.
On peut travailler, on le fait déjà sur des modèles animaux, donc on suit plusieurs générations et on voit parfois des effets qui sont parfois contestés, mais enfin qui des expériences existent et elles sont valables. Et ensuite, quand on veut passer à des études chez l'homme, il y a quelques études où on peut suivre plusieurs générations avec des cohortes notamment, et donc c'est possible, c'est très long, hein. Bon, ça Rémi connaît ça beaucoup mieux que moi, mais en toxicologie on peut le faire. Et c'est fait.
Et alors, étudier les générations futures, Rémi Slama, c'est quasiment une double difficulté, non ?
Comme vient de le dire Robert, chez l'animal, en une année, on a plusieurs générations chez des rongeurs, donc on peut avoir des signaux clairs sur ce qui se passe chez l'animal. Chez l'humain, les exemples sont relativement rares, mais un exemple important, c'est celui du Distilbène, qui est un médicament qui a été prescrit aux femmes enceintes entre les années 50 et 77 en France. Les effets ont été découverts du fait de cancers gynécologiques qui survenaient vers l'âge de 15 à 20 ans chez les filles des femmes à qui on a prescrit ce médicament alors qu'elles étaient enceintes. Et on se rend compte que les enfants de ces femmes qui étaient dans leur vie intra-utérine quand leur maman prenait du Distilbène ont aussi un risque accru de certains troubles et notamment des malformations congénitales pour les petits garçons. Donc on peut débattre sur le fait qu'on appelle ça ou pas un effet transgénérationnel, mais là c'est l'exemple d'une exposition qui concerne une femme enceinte et qui se manifeste sur son petit-fils.
On va écouter l'extrait d'un documentaire qui avait marqué des esprits il y a quelques semaines à peine. C'était diffusé en novembre dernier sur Arte, qui s'appelait « Demain, tous crétins » autour des pesticides et de leur influence justement sur les enfants.
Brenda Eshkenazi lance dans les années 2000 l'étude « Chamacos, enfants » en espagnol. Une question la préoccupe. Quel est l'effet des pesticides sur les cerveaux des enfants à naître? Elle recrute pas moins de 600 femmes enceintes, la plupart issus de familles de travailleurs agricoles.
Nous avons observé des réflexes anormaux chez les nouveau-nés, un retard intellectuel chez les enfants de 2 ans, une baisse de QI chez les enfants de 7 ans. On a aussi constaté une augmentation des problèmes d'attention et une hausse des symptômes autistiques.
La chercheuse a mené une étude unique au monde. Elle a fait passer un IRM à 40 enfants de 12 ans exposés in utero au chlorpyréfos.
Cette image nous montre que les zones du cerveau des enfants les plus exposées au chlorpyréfos diffèrent de celles des enfants les moins exposées. Ces zones en rouge sont celles où le cerveau est plus large que ce à quoi on s'attendait. Et ces régions correspondent à l'attention et au contrôle de soi.
Voilà, documentaire « Demain, tous crétins » diffusé sur Arte en 2017, en novembre dernier. Robert Baruchi, un mot évidemment, parce que ça c'est un thème marquant qui suscite beaucoup d'inquiétude de la part des parents, c'est l'influence par exemple des pesticides sur les enfants. Qu'est-ce qu'on sait vraiment aujourd'hui? Sur quoi on peut s'appuyer scientifiquement?
Il y a eu une expertise de l'INSERM il y a 2-3 ans qui a assez bien mis en évidence un certain nombre d'effets des pesticides, notamment sur l'apparition de certains cancers, sur la maladie de Parkinson ou des maladies neurodégénératives, sur la fertilité et aussi sur le développement neurocognitif et neurocomportemental des enfants. Alors le niveau de preuve est inégal selon les différentes pathologies. On a, dans cette expertise, on essaye de montrer là où on a le plus de preuves, donc une forte présomption et d'autres d'autres domaines où on manque un tout petit peu de preuves. On classe un peu selon le poids des preuves. Hein. C'est fait comme ça. Mais indéniablement, il y a quand même de fortes présomptions sur des effets des pesticides sur différentes cibles pathologiques.
Ribis Lama, qu'est-ce qui entre finalement dans cette longue liste des contaminants extérieurs? Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu finalement de l'étendue de ce domaine? Parce qu'on va parler de plein de choses différentes, hein, autant du réchauffement climatique que des pesticides, en passant par les métaux lourds. C'est très large.
C'est extrêmement large. Alors, on peut réaliser que par rapport au passé, les facteurs qui influencent notre santé ont été profondément modifiés. Si on se projette il y a très longtemps au Moyen-Âge, en gros, on décédait beaucoup à cause de trois grands maux qui étaient les famines, les guerres, les épidémies. Mmh. Et il faut réaliser que nos sociétés ont réussi très efficacement à lutter contre ces maux. Que du coup, le profil des causes de décès et des maladies dont on souffre a été bouleversé. C'est ce qu'on appelle la transition épidémiologique.
Pourtant, on meurt toujours de guerre, de famine et d'épidémie.
En fait, en Europe de l'Ouest, effectivement, il faut être précis, vous avez raison. Ouais. Il y a la part des décès dus aux guerres, aux famines et aux épidémies est très faible. Il y a plus de guerres depuis quelques décennies en l'Ouest de l'Europe. Il y a la famine n'est plus un problème. Le problème, c'est qu'on mange trop, plutôt qu'on n'ait pas assez à se nourrir. Et les épidémies et les maladies infectieuses sont toujours des maladies préoccupantes, mais disons que c'est peut-être de l'ordre de 2 à 5% des décès en France chaque année, selon l'ampleur de l'épidémie de grippe, et plus du tout plus de 50% comme c'était le cas à la fin du 19e siècle.
Donc ces facteurs extérieurs, ils sont très divers, hein.
Ils sont effectivement variés. Donc, au-delà des facteurs biologiques, les agents infectieux, il y a des facteurs physiques qui sont les rayonnements ionisants notamment, qui sont tous les facteurs liés au climat, les inondations, les événements climatiques extrêmes. L'épisode de canicule, quand il est majeur, il peut tuer, comme en 2003, de l'ordre de 15 000 personnes. Et puis, il y a le monde gigantesque des facteurs chimiques. Là, dans le registre de tous les facteurs chimiques qui ont été inventés par l'humain ou qui existent, il y a plus de 130 millions de molécules à l'heure actuelle. Elles ne sont pas toutes dans notre environnement, mais grâce à la loi européenne REACH, on a la notion qu'il y a probablement de 100 à 130 000 facteurs chimiques qui sont commercialisés, utilisés en Europe aujourd'hui, qui sont pas tous nocifs, mais dont il faut réaliser qu'ils n'ont pas tous été testés et fait l'objet de effectivement d'études approfondies avant d'être commercialisés.
Donc Robert Baroucki, ça augmente la difficulté et la complexité justement pour analyser vraiment les responsables.
Oui, c'est vrai. En fait, ça reprend un peu la problématique de la définition du terme environnement. Hein. On peut avoir une définition très large de l'environnement, un peu ce qu'on appelle l'exposome de nos jours, c'est-à-dire l'ensemble des expositions, et ça inclut tout ce qu'a cité Rémi, mais aussi les stress qu'on peut subir par ailleurs, stress psychologique, socio-économique, on inclut un peu tout ça. Si on a cette définition extrêmement large, et puis il y a une définition un peu plus intuitive, environnement polluant, pollution, hein, donc là c'est plus restreint. Mais dans la définition large, qui est tout à fait acceptable, c'est complexe, et en plus, ces différents facteurs de stress peuvent interagir entre eux. C'est pas tout à fait pareil d'être contaminé quand on est par exemple dans une situation socio-économique basse, ou quand on a une alimentation qui est très grasse ou autre. Enfin, je veux dire, il y a des interactions entre ces différents. Donc c'est compliqué, c'est pourquoi on avance, mais on avance peut-être pas toujours aussi vite qu'on aurait voulu.
Et c'est la santé environnementale dont on parle cet après-midi dans La Tête au Carré. Des questions pour vous, elles sont nombreuses sur le site de l'émission franceinter.fr.
Comme vous.
Extra Lucide, c'était Junior.
La tête au carré. Sur France Inter.
L'un est épidémiologiste Rémi Slama, l'autre biochimiste et toxicologue Robert Barouki. Ils sont les invités de La Tête au Carré pour parler de santé environnementale à l'appui de ce livre Le Mal du Dehors que vous signez Rémi Slama aux éditions Kouaé. L'objectif d'ailleurs de ce livre, c'est de dire quoi ? Ce que l'on connaît aujourd'hui de l'influence sur la santé humaine de ces contaminants ?
Oui, c'est vraiment un livre qui vise à faire le point global sur les connaissances actuelles d'un grand nombre de facteurs qui est pas limité aux facteurs qui sont pas limités aux facteurs chimiques qui inclut le changement climatique, qui inclut les agents physiques comme le bruit ou les rayonnements ionisants et non ionisants. Et puis l'idée c'est aussi de présenter les grands concepts comme celui de la causalité, de la nature multifactorielle des maladies, ouais, et toutes les disciplines qui sous-tendent la recherche sur ces questions.
Ouais, qu'est-ce que c'est que la transition épidémiologique ? Parce que vous dites finalement à l'ère de l'anthropocène, donc cette époque que nous vivons, il y a deux transformations majeures. Bon, la révolution industrielle, ça c'est le 19e siècle, et puis la transition épidémiologique, ça on connaît moins.
Eh bien, c'est ce passage d'une société où l'essentiel des décès sont dus à des maladies infectieuse, avec une espérance de vie relativement brève. Au moment de la Révolution française, l'espérance de vie, elle était de 20 à 30 ans, il faut le rappeler, avec une mortalité infantile extrêmement élevée, un enfant sur trois qui passait pas la première année, à une société où l'essentiel des causes de décès ne sont pas de nature infectieuse, mais sont dues à ce qu'on appelle des maladies chroniques, ou en anglais, d'ailleurs, on utilise le terme de maladie non contagieuses, non communicable disease, qui sont aujourd'hui pour la France essentiellement les cancers, hein, 29% des décès, les tumeurs, les maladies cardiovasculaires, environ un décès sur quatre aujourd'hui en France, et puis toutes les maladies dégénératives et notamment les maladies neurodégénératives. Donc le profil des causes de décès est complètement bousculé et l'espérance de vie progresse et a progressé. Alors, puisqu'elle a dépassé 80 ans maintenant.
Ça, c'est totalement paradoxal, finalement, Robert Barouki, non ? Parce qu'on s'inquiète de plus en plus, et on a raison de le faire, sur ces critères environnementaux, et pourtant, on vit de plus en plus longtemps.
On vit de plus en plus longtemps, mais on a des maladies. On est malade quand même. Et donc, l'idée, c'est... Et certaines de ces maladies augmentent, donc on aimerait un peu comprendre pourquoi. Et à la limite, si soit on peut vivre un peu plus longtemps, soit on peut vivre mieux, eh bien, il faudrait savoir un peu comment on peut faire et quels sont les différents facteurs de stress, notamment de l'environnement, qui sont la cause de ces maladies chroniques.
Alors, il y a beaucoup de disciplines, évidemment, qui participent à cette santé environnementale. La génétique en fait partie, justement, Robert Barouki.
C'est un complément. Enfin, je veux dire, en général, on oppose un peu un facteur génétique avec un facteur environnemental et c'est assez artificiel. En réalité, nous sommes le résultat de notre hérédité, de nos gènes, et le résultat des influences que l'environnement a pu...
On a même donné un mot à ça, c'est l'épigénétique, finalement, ce qui nous influence...
Ça se traduit, entre autres, par des phénomènes épigénétiques, eux qui peuvent être, effectivement, qui sont transmis et qui peuvent durer sur la longueur. Mm-hmm. Et donc, on est la résultante de ça. Donc, en fait, on peut opposer, mais je pense que c'est pas très utile.
Ouais. Vous parlez de l'exposome, vous, c'est ça ?
Oui.
C'est un mot que vous défendez ?
Nous défendons l'exposome, il est dans l'article 1er de la loi santé, donc il s'est passé même à un niveau politique.
Qu'est-ce qu'il veut dire exactement ?
En fait, c'est une manière de comprendre et de rassembler l'ensemble des expositions que nous subissons sur toute notre vie, comme étant le complément du génome, du phénomène génétique. Et quand on dit exposome, on entend par là exposition à des produits chimiques, physiques, éventuellement biologiques, mais aussi stress psychologique, conditions socio-économiques, et sur toute la vie surtout. Et donc, parce que ce qui nous arrive quand on est fœtus ou quand on est petit enfant peut nous influencer plus tard. Donc c'est assez ambitieux comme concept, mais au moins ça regroupe tout ça et ça nous rappelle qu'il faut avoir cette vision assez large et non pas se focaliser sur un produit et essayer de travailler dessus uniquement.
Rémi Slama, Geneviève nous écrit « J'ai 60 ans, dit-elle, ça fait 25 ans que je fais du vélo en milieu urbain, qui me dit que je ne souffrirai pas d'un cancer du poumon dans quelques années alors que je n'ai jamais fumé une cigarette de ma vie et que je vis dans un milieu de non-fumeurs à 100%. » Cette pollution atmosphérique, évidemment, elle inquiète aussi beaucoup.
Oui, et à juste titre. Alors effectivement, malheureusement, vélo ou pas vélo, en vivant en milieu urbain, même si on a un mode de vie relativement sain et qu'on ne fume pas, on a un risque de développer un cancer du poumon. Maintenant, si on fait du vélo et qu'on n'est pas en plein milieu de la circulation, a priori, il y a un vrai bénéfice sanitaire lié à l'exercice physique que la bicyclette offre. Ouais. Alors, cette pollution atmosphérique, elle est responsable en France aujourd'hui de 40 à 50 000 décès, sont les estimations de Santé publique France.
Ouais.
C'est colossal et c'est paradoxal ou extrêmement étonnant, en tout cas pour les spécialistes de santé publique, parce qu'on est face à un polluant dont les effets sont absolument certains, dont on comprend les mécanismes d'action, qui touche des jeunes, des gens sans aucun autre facteur de risque, ou des personnes âgées, l'ensemble de la population, qui a peut-être aussi des effets sur les fœtus, nous c'est ce qu'on étudie dans l'équipe. Et donc pour lesquels il n'y a absolument aucun doute, pour lesquels il y a des lois qui disent que la santé doit être préservée et vis-à-vis desquels le combat finalement est très lent et les gains sont effectivement se font à l'ampleur de moins 2 ou 3% des niveaux de pollution chaque année, ce qui fait que si on continue à ce rythme lent, on continuera à vivre et à décéder de ce problème pendant encore très longtemps.
Pour l'illustrer, cette question justement de la pollution atmosphérique, un reportage proposé par France 2, c'était en décembre 2016.
Cramponnée à son masque, Apolline, 10 ans, est venue chercher de l'air à l'hôpital. Elle est asthmatique et cette fois son traitement n'a pas suffi à la protéger.
J'imagine que la crise ne se calme pas aussi parce que, enfin, à cause de la pollution. On a envisagé se dire on part très vite en Normandie pour aller prendre l'air pur. Quoi.
Aux urgences pédiatriques de cet hôpital parisien, depuis une semaine, la salle d'attente ne désemplit pas. 35% de consultations en plus par rapport à l'année dernière à la même époque.
La pollution est un cofacteur important qui va augmenter le risque de crise d'asthme malgré un traitement de fond bien suivi qui normalement protège les bronches. Et on va du coup entraîner une augmentation des symptômes, de la toux, de l'encombrement et puis des crises d'asthme qui sont potentiellement sévères.
À pied ou en poussette, les enfants sont très exposés à la pollution. Exposés aussi les personnes âgées. En France, la pollution serait responsable de 48 000 morts prématurées par an. Dans une ville comme Paris, elle nous fait perdre 6 mois d'espérance de vie.
Robert Barouki, la pollution atmosphérique, c'est le premier risque environnemental aujourd'hui de santé publique.
Je crois qu'on peut le dire, oui, d'après l'OMS, en tout cas, ça fait partie. Il faut voir que la pollution atmosphérique, on peut la mesurer.
Oui.
Et donc, on peut établir un lien entre la pollution atmosphérique et des effets sanitaires.
Pourquoi on peut la mesurer facilement?
Parce qu'on peut mesurer la quantité de particules, on peut mesurer un certain nombre de produits chimiques qui sont révélateurs de la pollution atmosphérique. Donc, et on a des statistiques.
Voir les personnes qui sont exposées.
Exactement.
Ou pas.
En plus, il y a des effets rapides. Il y a des effets sur le long terme qu'on a peut-être plus de mal à complètement caractériser et l'équipe de Rémi s'y attelle, mais il y a des effets aussi rapides. La consultation pour une crise d'asthme ou d'un problème cardiovasculaire, ça c'est quelque chose qui se voit tout de suite. Alors que pour d'autres contaminants chimiques, il y a rien de rapide. C'est complètement... Il n'y a pas grand-chose immédiatement, mais les choses ne se voient qu'à très long terme. Et donc on a plus de mal à mettre une relation de causalité entre ce contaminant et un effet sanitaire.
Rémi Slama.
Oui, et le risque en termes de nombre de cas attribuables, comme on vient de l'entendre, il est bien quantifié pour les polluants environnementaux. Et avec ces 48 000 décès dans une population de 60 millions de personnes environ, on a un niveau de risque de l'ordre de 1 pour 10 000, ça veut dire un décès pour environ une dizaine, entre 10 et 100 000 personnes chaque année, ce qui est très élevé et ce qui est beaucoup plus que le niveau de risque qui est considéré acceptable pour beaucoup d'autres facteurs. Même si il n'y a pas de loi extrêmement claire, en général, on a tendance à considérer qu'au-delà de un décès pour 1 million de personnes, on est dans une zone où le risque devient important et n'est plus acceptable. Eh bien, nos sociétés, elles tolèrent pour la pollution atmosphérique un niveau de risque beaucoup plus élevé, 10 à 100 fois plus élevé, de manière...
C'est étonnant quand même, non ?
Extrêmement étonnant. Ouais. Oui.
Et comment on explique ça, alors, ce paradoxe-là ?
Je ne suis pas historien et ni sociologue. Ce qu'il y a de vrai, c'est que les risques infectieux qu'on tolère pas, c'est-à-dire que le jour où il y a un virus aux portes du pays, on va éventuellement mettre l'armée, distribuer des casques, acheter des vaccins. Le risque infectieux, depuis des siècles, on se bat contre lui, on a développé des quarantaines, des stratégies, nos sociétés l'ont complètement intégré. Le risque qui est de nature physique ou chimique, il est peut-être un petit peu plus récent. Mmh. Et puis, les sources de pollution atmosphérique, pour certaines d'entre elles, elles sont aussi liées à notre bien-être ou à notre confort. Probablement, le feu, c'était une des premières sources de réconfort pour l'homme dans les cavernes. Donc, on a l'image de quelqu'un au coin de sa cheminée en hiver. Elle évoque aussi le bonheur. Donc, peut-être que tout ça fait qu'on n'est pas très rapide pour lutter contre les phénomènes de combustion qui sont à l'origine de beaucoup de ces polluants atmosphériques.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de l'émission consacrée au message des auditeurs qui sont nombreux.
Tu penses que les femmes m'adorent? Tu penses que mon nez n'est pas trop grand? Tu penses que je suis intelligent? Tu penses que je pense. Et moi je veux nager encore une fois avec toi. Et moi je veux nager. Ma femme n'est pas là. Je suis pas James Bond. Tu penses que je peux être une star? C'est beau. Tu penses que j'ai une tête de veau? Et moi je veux nager encore une fois avec toi. Et moi je veux nager. Ma femme n'est pas là. Oh. Tu penses que je suis pas trop petit? Tu penses que je peux être heureux? Tu penses que je vais mourir? Tu penses que je dis des conneries? Et moi je veux nager encore une fois avec toi. Et moi je veux nager. Ma femme Dieu, mais je fais ce que je veux. J'adore Hollywood. J'aime l'été à Saint-Tropez. Oh. Et moi je veux nager encore une fois avec toi. Et moi je veux.
Je veux nager et c'est la voix d'Arnaud.
La tête au carré.
Rémi Slama, Robert Baroucki pour parler de santé environnementale avec vos nombreux messages donc sur le site de l'émission franceinter.fr, le mot-clé l'attaque. Il y a beaucoup de questions autour des problèmes d'épandage. Rémi Slama, Sandra qui habite au nord d'Aix-en-Provence dans un lotissement en bordure d'une vigne traitée chaque printemps. Quels sont les risques pour ma famille et quels droits ai-je pour faire cesser tous ces traitements? Même chose pour Tiffaine qui vit en zone agricole fruitière dans le Vaucluse depuis peu et enceinte de 2 mois. Beaucoup de personnes inquiètes hein, sur ces questions d'épandage de produits phytosanitaires.
Effectivement, les pesticides, disons, les produits phytosanitaires sont préoccupants et il y a une légitimité dans la mesure où, en fait, la plupart des facteurs dans notre environnement, s'ils ont un effet sur la santé, c'est pas leur objectif premier. Un additif alimentaire, peut-être qu'il est développé pour colorer l'alimentation, par exemple. Mais il y a deux familles de substances qui sont développées pour leur action sur le vivant. C'est les médicaments et les pesticides.
Ouais.
Donc, il est légitime de se poser la question des effets des médicaments ou des résidus de médicaments dans notre environnement et des pesticides qui sont faits pour agir sur le vivant, certaines espèces normalement, mais du fait de la proximité génétique entre beaucoup d'espèces, c'est pas très facile de développer des pesticides qui sont extrêmement sélectifs et qui vont attaquer telle ou telle espèce, même de végétaux, ou le système nerveux des insectes, sans avoir absolument aucune conséquence
sur le reste de leur environnement. Ouais.
Et historiquement, il est vrai qu'on a commencé à utiliser des pesticides qui étaient extrêmement nocifs. On a pu utiliser de l'arsenic, c'est encore autorisé, je crois, aux États-Unis. Les premiers pesticides aussi, dans la période plus récente, c'était les pesticides organochlorés et le DDT. Oui. S'est révélé dans le cas d'une exposition précoce, donc en gros, dans la vie intra-utérine, dans l'enfance, capable d'augmenter le risque de cancer du sein à l'âge adulte. On a entendu aussi l'exemple de l'étude californienne tout à l'heure, et la famille, les générations suivantes de pesticides posent aussi des questions. C'est les pesticides organophosphorés, ce sont les néonicotinoïdes, alors là notamment pour leurs effets sur l'environnement. Mmh. Donc c'est extrêmement complexe d'avoir des pesticides qui n'ont pas d'effet sur la santé.
Robert Baroucki, là on établit vraiment une causalité en santé environnementale avec les pesticides. C'est simple de le faire ou pas?
C'est pas nécessairement très simple de le faire parce que quand on fait des expériences, on sait quels pesticides on met exactement. Oui. Quand on fait des études en population, là, ils sont exposés à de multiples pesticides et donc c'est pas toujours très facile. On essaie de reconstituer l'exposition. Ce qu'il faut dire, c'est que les plus grandes victimes des pesticides, ce sont les agriculteurs et les travailleurs qui travaillent donc dans les champs. C'est eux qui sont. Mmh. La plupart des études épidémiologiques à peu près convaincantes sont faites chez donc les professionnels, les agriculteurs. C'est de là qu'on tire l'essentiel des informations que je vous ai données tout à l'heure. Donc en effet, il y a des effets, il y a de fortes présomptions pour des effets et donc il faut effectivement faire attention.
Pierre demande quel est l'impact sur la santé de l'exposition permanente aux ondes électromagnétiques. Est-ce qu'on a de la science là-dessus, Rémi Slama, ou pas?
C'est pas un sujet que je connais très bien, mais les ondes électromagnétiques, il y a celles qui libèrent beaucoup d'énergie, qui sont les rayonnements ionisants, mmh. qui ont des effets sur la santé, puisque le fait qu'elles arrivent à créer des ions, à arracher des électrons à la matière, entraîne la création d'espèces qui sont très réactives et qui vont entraîner du stress oxydatif, qui peuvent développer des brûlures, des cancers, mmh. des pathologies cardiovasculaires. Ça, c'est la radioactivité. Les rayonnements ionisants. Pour ce qui est la question, là, je pense, concerne les rayonnements non ionisants, donc dans la gamme de fréquences où l'énergie n'est pas suffisante pour créer des ions, en fait, on est dans la situation où le mécanisme, d'un point de vue mécanistique, il est possible qu'un effet survienne, puisque certaines fréquences, par exemple celles des micro-ondes, qui sont proches de ce qui est utilisé dans les téléphones portables notamment, ou les émetteurs Wi-Fi, mm-hmm. Qui sont dans notre environnement, peuvent exciter notamment les molécules d'eau qui constituent l'essentiel de notre cerveau. Donc il est possible qu'il y ait des effets locaux de réchauffement. Mm-hmm. Il y a quelques études bien faites chez l'animal qui montrent des effets sur le comportement. Mais à ma connaissance, il y a peu de travaux très convaincants chez l'humain qui montrent des effets sanitaires graves. Mais il faut admettre que, étant donné que les technologies évoluent extrêmement rapidement...
Et qu'on baigne là-dedans, hein, en permanence.
Voilà, on a encore peu de recul et d'études bien construites.
Robert Baroucki, c'est tout à fait déplorable, ça, non?
Oui, avoir une population témoin dans des études épidémiologiques, c'est extrêmement compliqué. Et donc, effectivement, on est là dans une très, très grande incertitude.
Allez, autre exemple autour des nanoparticules dans les aliments.
Ils sont minuscules, ces additifs, et pourtant ils gagnent du terrain à table. Les nanoparticules de dioxyde de titane, le fameux E171, on en trouve dans l'enrobage des bonbons, dans les yaourts, les biscuits ou les glaces. Quant à la silice, elle est ajoutée aux farines, aux sels et autres soupes lyophilisées pour éviter que les poudres s'agglomèrent. Quel effet sur notre organisme? Les études sont rares. En début d'année, celle menée sur des rats par l'INRA a fait grand bruit. Éric Oudot, du Centre de recherche en toxicologie alimentaire.
Chez l'animal, plus l'exposition est prolongée dans le temps, semaine après semaine, plus on voit des effets immunotoxiques apparaître. Et au bout de 100 jours, on voit se développer au niveau de l'intestin, au niveau de la région du côlon, ce que l'on appelle des lésions prénéoplasiques, des stades précoces de la précancérisation de l'intestin.
Ces recherches portent sur l'animal, on ne peut les extrapoler à l'homme. Néanmoins, ces effets précancéreux et le fait que le dioxyde de titane soit classé cancérogène quand il est respiré ont incité l'ANSES à demander plus d'études.
Voilà, donc suspicion également autour de ces nanoparticules. Robert Barouki, avec ce que disait Sophie Becherel justement dans ce papier, la difficulté de transposer de l'animal à l'homme, parce qu'on part toujours, la méthode, elle part d'abord de l'animal, hein.
Ça dépend. Enfin, ça dépend du contaminant. Parfois, c'est des études qui pollution atmosphérique. C'est beaucoup plus facile de faire des études à la limite épidémiologique et populationnelle que de avoir un vrai beau modèle chez l'animal. C'est possible, mais c'est plus difficile. Injecter une substance, c'est beaucoup plus facile, évidemment, chez l'animal. Ouais. Et il faut à chaque fois arriver, pour établir un bon lien de causalité, à arriver à démontrer que ce qu'on observe chez l'animal est pertinent chez l'homme. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose de très très simple.
Rémi Slama, vous partagez ce sentiment?
Oui, c'est vraiment enfin, la logique qui est quand même dans la réglementation et notamment dans tout le champ du médicament, mais qui est une logique qui transpire aussi du côté des produits chimiques, c'est que les signaux qu'on observe chez l'animal ne peuvent pas être ignorés et doivent être utilisés pour réglementer et réagir chez l'humain.
Laurence demande, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle mode qui consiste à prendre des huiles essentielles pour tous les maux et sans réel contrôle? Est-ce qu'il n'y aurait pas dans cette pratique un risque de s'exposer des molécules qui, bien que naturelles, entre guillemets, peuvent être de dangereux perturbateurs endocriniens? Robert Barouki.
L'observation est intéressante. Enfin, je ne vais pas commenter spécifiquement les huiles essentielles, mais dire qu'une molécule est naturelle n'est pas la preuve qu'elle est innocente. Hein. On a des choses très naturelles, il y a des toxines dans les champignons parfaitement naturelles et extrêmement toxiques. Donc c'est pas un gage d'innocence.
Et même ces huiles essentielles, dans l'air ambiant, elles sont plutôt préoccupantes et faut pas se laisser attraper par le terme d'huile essentielle qui donne l'impression que c'est quelque chose d'absolument anodin.
C'est toujours la question de la dose, hein, Robert Barouki, ou pas?
Ça peut être la question de la dose, mais pas uniquement. Hein. Ça peut être la dose et la cible.
Est-ce que c'est une notion qui est fondamentale, ça, en toxicologie aujourd'hui?
Bien sûr, elle reste fondamentale. Simplement, avant, on considérait essentiellement des doses relativement fortes. Maintenant, il faut s'intéresser à des doses, parfois pour certains composés, des doses faibles, et regarder ce qui se passe. Mais ça ne suffit pas. Hein, ce n'est pas uniquement une question de dose, c'est la cible, l'organisme cible. Si c'est un fœtus, un enfant, ce n'est pas pareil. Ils ne réagissent pas de la même manière que si c'est un adulte. Le temps est important. Est-ce qu'on a observé les choses suffisamment longtemps? Donc, il y a beaucoup de critères qu'il faut analyser avant de conclure à une toxicité.
Et l'effet cocktail aussi maintenant, évidemment, qui est central dans ces études-là, parce que c'est comment plusieurs molécules peuvent interagir ensemble. Hein.
Et c'est mal étudié, et par contre, c'est tout à fait évident que c'est essentiel dans ces études.
Mais ça a ouvert un gouffre finalement, Rémi Slama, non? Quand on a commencé à s'apercevoir qu'il y avait ces effets cocktails, parce que là c'est vertigineux finalement, tout ce qu'on peut étudier.
Oui, oui. C'est pas, alors Robert va pas être très content, j'ai dit que c'est pas complètement nouveau, mais les médecins savent que par exemple, il n'est pas bon de prendre du jus de pamplemousse quand on a des médicaments, parce que le jus de pamplemousse va agir sur le métabolisme de certains de ces médicaments et va multiplier par 10 ou 100 leur action. Donc on se rend compte en fait qu'il est possible que ça ne concerne pas que les médicaments et que les produits chimiques peuvent interagir entre eux avec ces effets cocktails.
Dernière question très vite de Geneviève, elle nous écrit ceci: on sait depuis plusieurs années que l'espérance de vie baisse aux États-Unis, est-ce en rapport avec l'environnement?
Non, l'espérance de vie ne baisse pas aux États-Unis. Elle n'augmente pas très vite. Et on peut rappeler que...
Il y a eu une année de petite baisse quand même, non?
Alors en France, il y a peut-être eu une année, mais enfin...
Aux
États-Unis, j'ai pas tout en tête, mais il faut regarder les grandes tendances. Il faut d'abord rappeler que les États-Unis, vu leur niveau de développement économique, ils ont une espérance de vie qui est pas si élevée, qui est plus faible que le Japon ou la France. Et ce qui est vraiment préoccupant, c'est la divergence de l'espérance de vie entre les populations les plus favorisées socialement, chez qui il y a une augmentation toujours nette, et les populations socialement défavorisées, chez qui, là, effectivement, on a une diminution de l'espérance de vie. En moyenne, il n'y a pas de différence, mais il y a vraiment des inégalités sociales liées à l'environnement, probablement, qui sont importantes.
Merci beaucoup à tous les deux. Le mal du dehors, Rémi Slama aux éditions Quae, et puis Robert Barouki, on peut citer Savez-vous vraiment ce qu'il y a dans votre assiette? C'est un livre avec Isabelle Brockmann, sorti aux éditions Solar. Merci beaucoup à tous les deux. Et c'est terminé pour cette tête au carré. Merci à Juliette Delperrou et Mathias Alléon qui étaient à la technique. Demain, on parlera des effets spéciaux au cinéma.